trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
De ma faute. Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. Bien ma faute. je pensais si forte. Mais l'inverse est passé quand j'ai claqué la porte. Sans toi, beaux jours reviennent. Ce sera plus jamais ma faute.
De Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne.
La liste des sujets de reconnaissance de l'apôtre Paul. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. 2 Corinthiens 9, verset 15. Comme Jésus, Paul remerciait Dieu pour beaucoup de choses. Il le remerciait d'être reçu comme ministre de l'Évangile. Il le remerciait pour ses collaborateurs. Il le remerciait pour les églises qu'il implantait. Il le remerciait pour les membres de ces églises. 2 Corinthiens 2, verset 14, montre toute l'étendue de la reconnaissance de l'apôtre. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Paul est conscient que c'est à la grâce de Dieu que nous devons toutes ces bénédictions. Nous pouvons suivre l'exemple de l'apôtre et consacrer notre vie à rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous fait toujours triompher en Christ.
Si vous souhaitez avoir plus d'encouragement de Joyce Meyer, abonnez-vous gratuitement à la newsletter sur joycemeyer.fr. Phare FM, l'émotion partagée.
We were just kids and married in early 20s. Checked all the boxes, bought a house and settled down. Yeah, we planned it all. Didn't wanna lose control. High expectations for the life that we were living. Yeah, we were reaching for the stars and at the ceiling. Yeah, we lost control. And everything we used to know. I started counting all the things that kept me breathing, and I realized there's beauty on the edge of life. Jamais tu me voyais heureux. J'ai pas voulu m'enfuir. J'avais besoin de temps et je suis pas doué pour les adieux. Maintenant, je peux te dire ce que je veux. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouverait. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard. Je vois l'avenir avec toi, un peu de voyage et des souvenirs heureux. Je veux plus jamais me mentir. Je sais que c'est toi si tu m'aimes encore un peu. On pourrait s'enfuir. J'aimerais qu'on le fasse tous les deux. J'espère que tu vas me dire qu'on peut. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouverait. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru. Je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard. Jamais, jamais, jamais j'avais autant cherché ce que j'ai déjà. J'ai regardé dans tes yeux et je me suis vu pour la première fois. Sur la fête, partout sur la fête.
crois que c'est pas trop tard.
Femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Nous parlons aujourd'hui des addictions sexuelles.
Aujourd'hui, sujet tabou, la sexualité et la pornographie.
Il est important de dire que exposition ne veut pas dire addiction. On peut être exposé, mais pas addict. Addict, c'est un comportement qui nous domine, où notre volonté a été détruite par le phénomène addictif. Et en fait, cela est plus fort que nous. Et c'est ce que Rachel est en train de dire, c'est que plus jeune est l'exposition à la pornographie, plus difficile sera la possibilité d'en sortir. Mais évidemment, avec l'aide de notre Dieu et le travail que l'on peut faire avec son aide, eh bien, on peut évidemment réécrire l'empreinte et sortir de cela.
Parce que tu parles d'addiction, mais la pornographie
emmène cette addiction très rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la pornographie qui t'emmène une addiction?
Le fait que la pornographie va déclencher le cocktail au niveau de la sexualité, ouais. C'est ça qui va créer l'addiction, en fait.
D'accord.
Parce que c'est
l'addiction se passe quand il y a orgasme, quand il y a stimuli sexuels.
Devant
le cerveau relâche un cocktail d'hormones extrêmement fort, mm-hmm. qui est en fait comme un flash de drogue,
de
presque,
drogue.
Mais naturel dans notre cerveau. Et c'est ça qui va créer le phénomène addictif. Parce qu'à chaque fois, le cerveau va rechercher cela. Il va falloir avancer plus loin dans la pornographie pour avoir à nouveau ce phénomène. Et puis après, ça va devenir un cycle qui ne s'arrête plus.
C'est tellement chimiquement fort que quand les filles sont exposées à la pornographie petite aussi, ça va déclencher la puberté avant l'âge normal. Donc on a vu une chute de l'âge de la puberté chez les filles à cause de ce cocktail chimique. Et en fait, c'est une illusion de croire que, supposons un jeune homme combat cela pendant son temps de célibat, et c'est une illusion de croire que le mariage va solutionner. Parce qu'en fait, c'est pas une question de la beauté de la femme ou de à quel point ils vont développer une relation sexuelle épanouie, puisque l'empreinte s'est faite au mauvais endroit. Donc on se retrouve avec des jeunes hommes qui se retrouvent mariés et qui n'arrivent pas à être détachés de cela. Et ça va créer chez la femme des grosses souffrances, parce que si elle s'en rend compte avant qu'il ne lui ait dit, bien va se rajouter au fait que la pornographie va créer une sensation d'adultère, c'est comme un adultère.
C'est un vrai adultère.
Voilà. Chez la femme, en plus, elle va se sentir trahie. Si le mari n'est pas venu dire, écoute, vraiment, il faut que je t'en parle, j'ai un problème avec la pornographie.
Mais c'est là où tu as vraiment besoin de parler du fonctionnement de la pornographie, que ça n'a rien à voir avec belle, pas belle,
exactement.
Attirante, pas attirante,
rien à voir avec
bonne
elle.
Sexualité, pas bonne sexualité, parce que c'est lié à ton empreinte initiale.
Absolument.
Donc, il faut vraiment, au lieu de... Moi, je sais que demain, ça arriverait dans mon couple. C'est sûr que ça emmènerait un dégoût dans mon cœur et presque un rejet, tu vois. Mais de comprendre qu'au contraire, on a besoin d'être aux côtés de notre mari dans ces moments-là.
C'est ça. Il ne faut pas se tromper d'ennemi.
Voilà, c'est ça.
C'était Hommes et femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Écoutez, c'est Phare FM.
Descendre le grand escalier avec ses pierres mal attachées. Même si je dois me brûler les pieds, je vais me lâcher. Éviter les cactus à côté, je vais m'asseoir sur mon rocher. Reprendre ce que la vie m'a ôté et toi à mes côtés. Ce que j'ai ôté et rendre au monde ce qu'il m'a donné et toi à mes côtés. Mieux.
'Cause you want their attention, giving them miles when they only give inches. Listen, move on that trauma bond, ain't the connection. You see those red flags, you ain't gonna fix them. You need a man, not a good politician. No. All the love bombs, gaslight, sequence the lies. Problems don't solve themselves, they're just combined. Okay, settle then. You'll be married with kids with your 2 out of 10. Wonder if happiness is or isn't him. In 2 years, you'll hear it from your therapist.
Tu vis dans un monde saturé de 1000 voix qui s'imposent à toi. Notifications, obligations, opinions, tout ce bruit peut t'épuiser et t'éloigner de moi. Pourtant, je ne suis jamais loin. Mon cœur bat pour toi, lentement, fidèlement, silencieusement, attendant que tu l'écoutes. Souviens-toi de l'appel de Samuel. Lorsque mon serviteur a dit « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Mon ami, je ne cherche pas ton attention pour te surcharger, mais pour t'aimer. Lorsque tu t'arrêtes, que tu respires et que tu me laisses un espace, je parle et mes paroles sont source de vie. Aujourd'hui, baisse le volume du monde et monte le son de mon amour, ton ami.
Seigneur Jésus, aide-moi à faire taire les voix qui m'éloignent de toi. Je veux entendre ton cœur, ce cœur qui bat avec amour pour moi. Accorde-moi la grâce de m'arrêter, de respirer, de te laisser toute la place. Fais résonner ta voix en moi, douce, vraie, vivante. Qu'elle me guide vers la paix, la vérité et la lumière. Amen.
Retrouvez Présentiel, un moment avec Jésus, en podcast sur pharefm.com/replay et sur votre plateforme d'écoute favorite.
12 years old. Could have been younger, must have been under something so magical. My heart was open, you came in right away. You took my breath away. I wish I'd always held you closer. Back in the day, yeah, I was so unaware. In a million ways, you said you'd always be there. Cause I knew in my heart I would wake up one day on a whole different wave, and I'd be back in your hands, back in your hands, back in your hands, back in your hands. You got the whole. Like a young boy, but now the garden's grown. I took the long road, I took the long way to finally find my way home. Cause I've been praying before I go to sleep. I hear that voice inside of me, cause you've been with me all along. Back in the day, yeah, I was so unaware. In a million ways, you said you'd always be there. Cause I knew in my heart I would wake up one day on a whole different wave, and I'd be back in your, back in your hands, back in your hands, back in your hands, back in your hands. You got the whole world in your hands, you got the whole world in your hands, you got the whole world in your hands, you got the whole.
La terre, j'ai vu la vie, les deux enfants, apporter l'espérance. Dans le regard d'un vieil ami, coulaient des larmes d'espérance. Une cathédrale sortir de terre, un oranger dans le désert, j'ai vu l'impossible.
Des milliers de rêves.
J'ai vu des hommes se relever, j'ai vu des mains apaiser la souffrance. Dans un village, l'éternité, dans le silence, l'amour en abondance. Une favela dansée de joie, un ancien retrouvé la foi, j'ai vu l'impossible.
Des milliers de rêves, tout autour de la terre, change le monde, tout simplement. Des milliers de rêves, tout autour de la terre, change le monde, à pas de géant.
L'espérance ne déçoit pas.
La confiance.
Si mamita canta la esperanza no defrauda.
Give your hands to serve.
Et ton cœur pour aimer.
Et ton cœur pour aimer.
Des billets de rêve. Tout autour de la terre change le monde. Tout simplement. Des milliers de rêves. Tout autour de la terre change le monde. À pas de géant.
That's all that really matters in the end.
too much of you to someone else. I'm talking to you now like we're old friends. It'll never be too late to start again. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come. Someone that'll die for you. 'Cause it's all that really matters in the end. It's love, love, love. 'Cause it's all that really matters in the end. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love.
Rushing one moment, you were flying high. You never see it coming when you're falling straight out of the sky.
La chute est longue après tous ces éclats. Tu te demandes si tu te relèveras. Les plus beaux chemins ne sont pas ceux qui se posent si facilement entre tes bras. Quand tu penses qu'il ne reste plus rien, sache qu'une lueur d'espoir brille au fond de toi. Quand les doutes viennent te prendre la main, regarde vers le ciel, respire. Donne le meilleur, donne le meilleur. Ne te retourne pas. Donne le meilleur, donne le meilleur.
Dans un piège, tu connais la fin de ton histoire. Écrasé par tes peurs, tu oublies tout ce que tu as. Deep down you know there's nothing left here but the sad end of the story. You're gonna lose when you stop trying. Only one way up to go, no God's no glory. It's not about the hits you take. It's all about the steps you make right now. Lose it all for doubt and pain. Or stand up from the ground. Tell me.
Expérimentez la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus.
Livre 1 et 2 des Rois. Bien que notre Bible regroupe deux livres séparés, ils ont à l'origine été rédigés en un seul livre relatant la suite de l'histoire précédente, à savoir celle du livre de Samuel. Alors, David a unifié les tribus d'Israël en un seul royaume. Dieu a promis que sa lignée verrait l'avènement du roi messianique qui établirait le royaume de Dieu sur les nations et accomplirait les promesses faites à Abraham. Le livre des Rois raconte donc l'histoire de la longue lignée des rois ayant régné après David, dont aucun n'a été à la hauteur de cette promesse. En réalité, ils ont conduit la nation d'Israël tout droit à sa perte. Le livre est structuré en cinq phases principales. L'histoire commence et s'achève à Jérusalem. D'abord avec le règne de Salomon et la construction du temple, puis avec cette dernière section décrivant la destruction de Jérusalem et l'exil d'Israël en Babylone. Les trois sections centrales relatent le déroulement de l'histoire menant à cette tragédie. Elles expliquent comment Israël a été divisé en deux royaumes rivaux, comment Dieu a essayé d'empêcher la corruption d'Israël en envoyant des prophètes et comment l'exil est devenu l'inévitable conséquence du péché d'Israël. Le livre s'ouvre sur deux chapitres décrivant la passation de pouvoir entre un David vieillissant et son fils Salomon. Les dernières paroles de David à Salomon sont très similaires à celles que Moïse, Josué et Samuel ont adressées au peuple. C'est un appel à rester fidèle au commandement de l'Alliance et à faire allégeance au seul Dieu d'Israël. Mais les propos de David sonnent creux quand lui et Salomon enchaînent sur leur plan pour consolider ce nouveau royaume qui consistera à perpétrer une série d'assassinats politiques. C'est tout sauf un bon départ. Cependant, Salomon fera son coup d'éclat en demandant à Dieu la sagesse pour diriger Israël et réaliser le rêve de David, celui de bâtir un temple pour le Dieu d'Israël. C'est là où le récit laisse place à la construction de ce temple qui est décrite dans les moindres détails. À l'instar du tabernacle dans la Torah, il y a tout cet or avec ses joailleries, des arbres fruitiers et aussi des sculptures d'anges. Tout ce symbolisme faisant écho au jardin d'Éden, là où le ciel et la terre se rencontrent et où Dieu réside au milieu de son peuple. Mais aussitôt le temple achevé, Salomon se met à prendre des décisions plus insensées les unes que les autres et pour le royaume, ce sera le début de la fin. Pour tisser des alliances politiques, il commence à épouser les filles d'autres rois et par centaines. Puis il adopte leur dieu et introduit par la même occasion le culte de ces dieux étrangers en Israël. Salomon s'amasse ensuite une fortune colossale, met sur pied une armée immense et instaure même des travaux forcés pour réaliser tous ses projets de construction. Alors, en se référant à la Torah et en vérifiant les instructions de Dieu au roi d'Israël dans Deutéronome 17, il est clair que Salomon les enfreint toutes. Durant ces dernières années, et ce jusqu'à sa mort, Salomon ressemblait plus à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'à son père David. La section suivante du livre commence avec Roboam, le fils de Salomon, qui agit exactement comme son père. C'est une bien triste histoire, empreinte d'avidité et de soif de pouvoir. Il essaie d'augmenter les impôts pour les travaux forcés. Et sous l'autorité de Jéroboam, les tribus du Nord rejettent cette mesure, se rebellent, font sécession et fondent leur propre royaume qui deviendra un rival. À ce stade de l'histoire, on se retrouve donc avec Juda, le royaume du Sud, qui a Jérusalem pour capitale et est dirigé par des rois issus de la lignée de David. Et aussi ce nouveau royaume du Nord, appelé Israël, dont la capitale finira par être la Samarie. Jéroboam bâtit également deux nouveaux temples pour surpasser celui de Salomon dans le sud. Il place un veau d'or dans chacun d'eux pour représenter le Dieu d'Israël. La répétition de l'épisode du veau d'or d'Exode 32 est assez flagrante. À partir de ce moment, l'histoire alternera régulièrement entre les royaumes du nord et du sud pour relater leur destin. À eux deux, ces royaumes voient se succéder plus d'une trentaine de souverains et en présentant chaque roi, l'auteur évalue son règne sur la base de ces quelques critères. A-t-il adoré uniquement le Dieu d'Israël ou a-t-il favorisé l'adoration d'autres dieux? A-t-il empêché l'idolâtrie au sein du peuple? Et est-il resté fidèle à l'Alliance comme David ou est-il devenu corrompu et injuste? Sur la base de ces critères, l'auteur ne trouve aucun bon roi en Israël du Nord. 0 sur 20. En Juda du Sud, seulement 8 sur 12 sont bien notés, ce qui nous ramène à un autre objectif majeur de ce livre, celui de présenter le rôle des prophètes, ces figures d'autorité clés dans l'histoire d'Israël. Alors dans la Bible, les prophètes n'avaient rien à voir avec les diseurs de bonne aventure. Ils parlaient de la part du Dieu d'Israël et étaient les véritables gardiens de l'Alliance. Autrement dit, ils interpellaient les rois et le peuple face à l'idolâtrie et l'injustice qui pouvaient être commises. Il rappelait constamment à Israël son rôle de guide pour les autres nations et d'obéissance au commandement de la Torah. Les prophètes incitent donc Israël à se repentir et à suivre leur Dieu. Dans ces sections centrales dédiées à chaque roi, Dieu envoie des prophètes à qui ils doivent rendre des comptes. Les prophètes les plus importants sont ceux du Nord, Élie et son disciple Élisée, qui apparaissent au milieu du livre. Élie était un prophète plutôt sauvage vivant dans le désert et son ennemi juré était le roi du Nord, Akab, et sa femme cananéenne, Jézabel. Ensemble, ils avaient instauré sur Israël le culte de Baal, le dieu cananéen. Dans une histoire célèbre, Élie a défié 450 prophètes de Baal lors d'une compétition pour voir qui était le véritable dieu. Les deux parties ont construit des autels et prié leur dieu, mais le dieu d'Israël a été le seul à répondre par le feu. Peu après ça, Akab abuse de sa royale autorité pour assassiner un paysan israélite et lui prendre le vignoble de sa famille. Élie confronte à nouveau l'injustice d'Akab et prédit sa chute qui entraînera toute sa famille. Élie passe finalement son manteau de leader prophétique à un jeune disciple nommé Élisée qui demande le double de l'autorité d'Élie. Ce qui est fascinant ici, c'est que le récit de l'auteur compte 7 épisodes miraculeux pour Élie, puis énumère 14 faits extraordinaires réalisés par Élisée. Ces prophètes étaient tous deux des hommes tout à fait remarquables et ont bien joué leur rôle en confrontant les rois d'Israël pour leur idolâtrie et leur injustice. Mais en définitive, ils ont échoué dans leur tentative de détourner Israël de l'apostasie. Dans la section suivante, le royaume du Nord est ébranlé par une révolution sanglante initiée par un roi nommé Jéhu qui détruit la famille d'Akab. Bien que Jéhu ait été initialement envoyé par Dieu, sa violence est devenue hors de contrôle. Il est à l'origine de cette spirale d'assassinats politiques et de rébellions dont Israël ne s'est jamais relevé. Après Jéhu, ce sera coup d'État sur coup d'État. Et chaque roi suivant d'autres dieux fait régner un climat d'injustice sans précédent en Israël. Ce qui mène à 2 rois, chapitre 17. Le grand méchant empire d'Assyrie fait une descente et assiège le territoire du royaume du Nord. La capitale Samarie est conquise. Les Israélites sont exilés et se dispersent à travers le monde antique. Alors, le chapitre 17 est un point déterminant. L'auteur interrompt le récit et fait cette réflexion prophétique sur les récents événements. Il dépeint la chute du royaume du Nord comme étant le résultat de l'idolâtrie et l'infidélité à l'alliance par Israël et ses rois. Dieu les a donc laissés affronter les conséquences de leurs décisions. La phase finale du livre raconte l'histoire du maintenant solitaire royaume du Sud. Nous y découvrons des rois très héroïques comme Ézéchias, qui s'appuie sur Dieu lorsque les armées d'Assyrie viennent frapper aux portes de Jérusalem. Ou encore Josias, qui découvre dans le temple un manuscrit perdu de la Torah. Et en le lisant, il se rend compte des péchés du peuple et c'est ainsi qu'il va instaurer des réformes religieuses pour mettre fin à l'idolâtrie et aux influences cananéennes sur leur terre. Mais le royaume de Juda était déjà allé trop loin. Manassé, le roi qui accédera au trône entre ces deux, est de loin le pire. Il ne se contente pas d'introduire l'adoration d'idoles dans le temple de Jérusalem, mais instaure également le sacrifice d'enfants. Dieu envoie alors les prophètes dire que l'heure des représailles a sonné, car Israël a atteint le point de non-retour. Les derniers chapitres racontent l'histoire de l'empire babylonien qui vient envahir Jérusalem, détruire le temple et contraindre le peuple et la lignée royale de David à l'exil. L'histoire se termine donc en nous laissant nous demander « Dieu en a-t-il fini avec Israël ? En a-t-il fini avec la lignée de David ? » C'est alors que le dernier paragraphe est en bond de 40 ans en avant pour s'arrêter sur un détail assez curieux de l'histoire alors que le peuple est encore en exil. Elle concerne Jéhoïakim, un descendant de David qui aurait été roi s'il était retourné à Jérusalem. Le roi de Babylone le libère de prison et l'invite à manger à la table royale pour le restant de sa vie. Et c'est là que le livre s'achève. Ce n'est pas grand-chose, mais cette histoire laisse une lueur d'espoir portant à croire que Dieu n'a pas abandonné la lignée de David. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment Dieu va-t-il faire pour tenir ses promesses envers Abraham et David ? Comment va-t-il bénir les nations et établir le royaume messianique ? Pour répondre à ces questions, il faut poursuivre la lecture dans les livres de sagesse et les livres prophétiques. Pour l'instant, nous en avons fini avec le livre des rois.
Phare FM vous a présenté Bible Project. Retrouvez cet épisode en intégralité et en vidéo sur bibleproject.com/français.
Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your way's better. Oh, oh, your way's better. Everything you say, making waves like a jet ski. You love every part of me, even when I was messy. Now I see the heart in your beauty, so I can finally sing out Jehovah, Jireh, Provider.
Put my heart back together.